Bonjour.
Balthazar.
La fête commence.
Levez-vous. Qu'est-ce que vous faites là?
Vous voulez assister à notre conversation?
Culture vive.
Il y a du feu, il y a de la terre, il y a la pluie et il y a le souffle de la parole.
À consommer sa modération.
Le monde et moi. Et moi dans le monde.
Parce que le rideau s'ouvre, les douleurs disparaissent.
Culture vive, Muriel Mahalouf.
Sur l'image, celle qu'on nous donne, celle qu'on veut bien montrer, représentation, transformation, l'image forge notre identité. Nabil Boutros, photographe égyptien, a choisi quelques prototypes de sa société et s'est photographié dans la peau de ses différents personnages. Barbe fournie de curé copte, moustache finement taillée de l'homme d'affaires, écouteurs du jeune branché, cheveux coupés ras de l'intellectuel, autant d'accessoires de transformation pour des identités différentes. Les photos sont exposées à la galerie Regard Sud à Lyon. Il nous en parlera dans quelques minutes. Nous recevrons aussi l'artiste de la transformation, Jean-Paul Goud, graphiste, dessinateur, photographe, chorégraphe, a créé des icônes grâce à son talent de prestidigitateur de l'image. Laetitia Casta en homme pour une affiche des Galeries Lafayette, c'est lui. Grace Jones en modèle de la beauté noire, c'est aussi lui. Le musée des arts décoratif lui consacre une rétrospective à la mesure de ses multiples talents de cet artiste touche-à-tout. Le reportage nous emmènera, lui, à Lagos. La capitale du Nigeria vit au rythme des multiples événements artistiques. Concerts, festivals, expositions, dont en ce moment une scène ouverte à tous les talents, professionnels ou amateurs. Julie Vandal nous y emmènera. Mais tout d'abord, autre direction, autre pays, le téléphone sonne à...
Phnom Penh.
Bonjour Stéphanie G.
Bonjour.
Le Cambodge serait donc une source d'inspiration pour le rock californien, puisqu'avec leur tournée électrique Mekong, le groupe Dengue Fever retourne à la terre qui l'a inspirée. Un événement sur la scène musicale de ce petit pays du sud-est asiatique, Stéphanie.
Oui, en effet, et à plus d'un titre, parce que la musique cambodgienne d'aujourd'hui se cantonne généralement à une musique de variété, répétitive, bon teint, volontiers sirupeuse. Aussi, parce que voir un groupe californien reprendre d'anciens standards du rock cambodgien des années 60 et 70 n'est pas banal. Enfin, après 10 ans d'existence, les Dengue Fever ont acquis une notoriété internationale et été attendus par leurs fans de ce côté du Pacifique, car il s'agit seulement de leur 3e voyage au Cambodge. D'ailleurs, c'est une tournée qui est soutenue par le département d'État américain.
Et comment un groupe basé à Los Angeles a-t-il développé un répertoire essentiellement en cambodgien ?
Alors, pour le comprendre, il faut revenir aux origines du groupe. Un voyage au Cambodge, des fans, cofondateurs des Dengue Fever, fin des années 90, et la découverte de vieux tubes de rock cambodgien à bord d'un taxi local qui transportait à l'hôpital un de ses amis atteint d'une fièvre dingue, cette maladie infectieuse transmise par des moustiques. Alors, c'est une révélation. Il se passionne dès lors pour cette pop asiatique aux accents rock américains. Et de retour chez lui, il décide, avec son frère Zach, de créer un groupe dont le nom s'impose naturellement. Et l'idée de faire revivre des morceaux dont les interprètes ont disparu sous les Khmers Rouges leur plaît. Leur projet aboutit quand ils repèrent la jolie et talentueuse Chom Nimol à Long Beach, tout droit débarquée du Cambodge où elle était une chanteuse de karaoké reconnue. Alors en plus des reprises d'anciens tubes cambodgiens, elle interprète également une partie de leurs chansons originales dans sa langue maternelle, le Khmer. Le résultat, c'est une fusion de rock psychédélique, de surf music, d'afrobeat, de jazz, bref, d'influences diverses et de chansons cambodgien qui reste une composante importante de leur création. On peut dire que ce sextet tangue entre rock et world music.
Et de quelle manière le public cambodgien accueille-t-il ce groupe de rock ?
Très bien. Alors, c'est un accueil qui est très bon, tant du côté, bon, cambodgien et aussi qu'expatrié. Alors, Nimol, la chanteuse, est adorée de ses compatriotes, qui sont également heureux et fiers de voir des Occidentaux promouvoir ainsi leur culture. Alors, sur scène, il donne l'image d'un groupe sympathiquement dépareillé, avec le guitariste, chanteur et cofondateur du groupe, Zach, qui surplombe du haut de ses 1m80 et de sa barbe à la ZZ Top, la frêle et glamour Nimol, qui accompagne son chant généralement de gracieux mouvements de main tiré des danses cambodgiennes traditionnelles. Et comme pour leur musique, ce cocktail détonnant fonctionne à merveille.
Merci Stéphanie G. Le groupe Dengue Fever, dont le titre, on l'aura compris, fait référence à la maladie de la dengue, sera à Phnom Penh ce vendredi, le 23 novembre au Laos et le 26 à Hanoï au Vietnam.
The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy, watch a dame on any street in town. Up and down, and over and across, romance's boss. Guys talk, girl talk, it happens everywhere. Eyes watch, girls walk, with tender loving care.
To watch the girls go by, soit une musique pour regarder les filles passer. Tout un programme, et c'est d'Andy Williams.
Écoutez, moi je sais ce qu'on va voir, mais je me demande ce que les gens vont recevoir.
Culture vive, Muriel Mahalouf.
Les prototypes de la société égyptienne sont là. Ronde de cuir de l'administration, curé copte, cher musulman, homme d'affaires et même le look branché, affublé d'écouteurs. L'habit ferait le moine donc ? En tout cas, c'est ce que semble affirmer la série d'autoportraits présentée par le photographe égyptien Nabil Boutros à la galerie Regard Sud à Lyon. Nabil Boutros, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous photographier ainsi dans ces différents identités, puisque c'est vous-même qui êtes donc dans ces différents personnages de la société égyptienne.
Vous dites très bien un personnage, parce que ce ne sont pas des autoportraits. Ça a commencé avec un agacement profond des gens qui s'affublaient d'une barbe ou se mettaient en costume cravate et se déclaraient soit homme d'affaires, soit homme religieux, soit moralisateur. Donc ça a commencé par cet agacement-là et je me suis dit il faut que je trouve un modèle qui fasse tous ces prototypes de personnages et finalement j'ai trouvé le meilleur modèle que j'avais sous la main, c'était moi.
Et alors, vous avez donc tantôt les cheveux longs ou courts, parfois une barbe, parfois des moustaches. Vous avez utilisé des postiches, des perruques quand
Absolument
même.
Absolument pas, ça a pris du temps. J'ai laissé pousser la barbe 5 mois. Puis, pour faire le salafiste, il fallait raser la moustache. Donc, pour les photos avec moustache, il fallait refaire pousser une moustache ou une barbichette. Une fois que la barbichette était là, je l'ai teintée en noir pour faire un peu plus jeune, un autre genre de look avec les cheveux défrisés. Et puis, une fois que c'est teinté, ça dure pas longtemps parce que ça repousse très vite derrière et mes cheveux sont pas très noirs, ne sont plus noirs. Donc il a fallu tout raser à zéro et recommencer avec des moustaches de bons paysans avec roulées vers le haut, comme presque en guidon de vélo. Quoi.
C'est une sacrée histoire, ça a duré combien de temps tout ça ?
Au total, ça a dû durer un an, enfin, depuis le jour où j'ai décidé de le faire jusqu'au jour où j'ai fini les dernières prises de vue. Et en fait, ça s'est fait en 3 fois tout simplement, en quelques jours en 3 fois.
Et vous avez fait combien de personnages de la société égyptienne ?
Mais j'en avais fait 25. Au départ, je voulais faire 4-5 hommes ou 4-5 femmes.
Et puis, vous vous êtes pris au jeu.
Exactement. Je me suis complètement pris au jeu. Je n'ai cessé de regarder, observer dans les journaux, dans la rue, de prendre des phototypes. J'ai fini par faire des catégories et puis surtout un ordre de travail comme un scénario, parce que ça, je fais pas pousser ma barbe de 5 mois tous les jours.
Un scénario dont vous êtes le seul acteur.
Oui, mais je ne suis pas que l'acteur, parce que je me suis retrouvé dans des situations assez drôles dans la rue, aussi bien à Paris qu'au Caire, avec une barbe de 5 mois. On m'a bien pris pour un cheikh tout à fait honorable et respectable.
On vous a demandé conseil ?
Oui, c'était vraiment beaucoup de respect devant la synagogue. On n'avait pas vu que j'avais pas de kippa, mais on s'est baissé pour me saluer.
Ça doit faire drôle, non ?
Oui, enfin, c'est pour moi, j'étais heureux de vérifier par moi-même que l'habit vraiment fait le moine.
Donc, vous êtes d'accord, l'habit fait le moine.
C'est bien ce que je voulais démontrer. D'ailleurs, un proverbe anglais dit « Suits make the man ».
Et est-ce que toutes ces identités, finalement, Nabil Boutros, vous avez ressenti quelque part qu'elles font partie de la vôtre ? Toutes ces identités égyptiennes ?
Non, pas vraiment. Je crois que j'ai mis dans ces identités les personnes que un peu caricaturales. Il y en a peut-être une ou deux dans lesquelles je me retrouve. Mais c'est vrai que d'un côté, je voulais prouver que l'habit fait le moine, mais d'autre part, aussi qu'on a plusieurs facettes.
Alors vos photos, avant d'être exposées en France, l'ont été au Caire. Quel a été l'accueil du public égyptien ?
Je pense que ça a été frappant, parce que la démonstration a été faite. À l'époque, je n'avais envoyé que 9 photos dans cette galerie, en décembre 2010. Et l'impact a été tellement fort que lorsqu'il y a eu un attentat le 1er janvier 2011 contre une église à Alexandrie, des amis, le propriétaire, enfin celui qui tenait le lieu de la galerie, m'a dit, quelqu'un de très engagé, Mortaz Nasr, il m'a dit, écoute, il faut vraiment faire quelque chose contre cet attentat. Et on a inversé la proposition, au lieu de dire simplement que l'habit fait le moine, on va dire, ben, nous sommes tous égyptiens. Donc c'était pour moi, pas exactement le premier propos, mais c'était l'autre face de la médaille. Donc j'ai accepté, évidemment, pour la bonne cause, et on a fait des posters qui ont été distribués au Caire, Alexandrie, à Ménia, à Siout. Et ça a été le temps que ça se fasse, que ça s'imprime, que ça se distribue. Des posters en 50-60, la révolution est arrivée. Et puis, les gens ont pris entre autres signes, parce qu'il y avait beaucoup de choses sur la place Tahrir, mais entre autres signes, les gens se promenaient avec l'affiche en disant « tous égyptiens ». Certains rajoutaient « sauf Moubarak », etc.
Et donc, un travail artistique est devenu objet de communication.
Ben, c'est ce qui un peu m'avait dérangé au départ, mais j'étais tellement dépossédé de la chose, ça ne pouvait que me ravir, d'autant plus qu'après, même la fin de la chute de Moubarak, les syndicats des artistes indépendants s'en sont servis, et ils en ont fait des grandes bâches de 5 mètres par 10 pour les mettre sur le stand qui, tous les mois, tous les débuts de mois, réunissait des artistes pour célébrer la révolution. Enfin, en tout cas, en mars, avril, mai, etc.
En tout cas, la situation ne vous a pas seulement dépassé, vous, Nabil Boutros, puisque c'est vrai que cette révolution était un peu au-delà de toute attente. Et aujourd'hui, vous-même, vous êtes égyptien et copte. Est-ce que après cette révolution, vous sentez que les différentes communautés égyptiennes trouvent mieux leur place au sein de la société ?
Je ne suis pas certain parce que il y a beaucoup de tensions qui n'ont rien à faire avec le premier élan, qui était une révolution d'abord contre l'injustice, contre la pauvreté, contre l'arrogance des forces de l'ordre. Mais est-ce que c'était une révolution pour obtenir la démocratie ? Ça, c'est une autre question.
Et là, vous avez des doutes, hein ?
En ce moment, oui. Il y a des forces extérieures qui jouent beaucoup, qui financent des partis. Les partis, je vais les nommer, il y a le parti salafiste, attise la haine volontairement et diffuse des messages qui ne sont pas du tout ceux de la tolérance et encore moins ceux de la démocratie. Ils disent clairement que la démocratie est incompatible avec l'islam. Donc voilà, moi je pense qu'ils ont été financés par d'autres pays du Golfe.
Nabil Boutros, vous montrez d'ailleurs à côté de cette série Égyptien dans la galerie lyonnaise, des photos intimes au cœur du quotidien des chrétiens d'Égypte, des coptes. Qu'est-ce que vous avez voulu faire voir à travers ces photos ?
C'est un travail que j'ai fait de longue haleine pendant 7 ans, entre 97 et 2003-2004. Et moi, j'avais un seul but, c'était de documenter, répondre à la question qu'est-ce que c'est que être copte aujourd'hui. Donc, je suis allé au fait, au mariage, à l'intérieur, chez les coptes, leur quotidien, les petites fêtes, les grandes fêtes. Donc, j'ai essayé de couvrir vraiment de façon très documentaire, mais assidue et continue. À travers plusieurs voyages par an en Égypte, tout cet aspect de vie. J'en ai fait un livre, je le voulais, je pense que ça l'est, une sorte de travail de référence.
Et des coptes aussi, on le voit, qui, au fil des générations et des siècles, sont enracinés dans ce pays.
C'est enraciné, ce sont des chrétiens qui ont adopté cette foi il y a 2000 ans.
Merci Nabil Boutros. Votre série Égyptien au pluriel, je le précise, est exposée à la galerie Regard Sud dans le quartier de la Croix-Rousse de Lyon jusqu'au 3 janvier. On peut donc y voir aussi des travaux plus anciens, comme ces images intimes du quotidien copte, mais aussi ces photos des centres commerciaux au Caire sur l'Égypte moderne. Une façon peut-être un peu aussi ironique de regarder cette Égypte qui se mondialise. Merci.
Merci à vous.
What's up, bro? How's it going, man?
Cap l'Europe vers l'Afrique de l'Ouest, plus précisément à Lagos, au Nigeria, où la mégapole voit fleurir les concerts, festivals et expositions, et parmi eux, Freedom Hall, soit l'espace de la liberté. Depuis un peu plus d'un an, cette scène ouverte accueille poètes, musiciens, slameurs, trois fois par semaine dans des lieux populaires ou chics de la ville. L'occasion pour monsieur et madame tout le monde de laisser s'exprimer son talent caché. Une formule qui fait salle comble et voit éclore de nouveaux talents. Reportage au Bogo Biri, un bar sur Ikoyi, signé Julie Vandal.
Freedom Hall, c'est une collection de poètes, musiciens, artistes, de gens qui ont un talent enfoui. On croit ferme que tout le monde a un don. Et ce qu'on fait, c'est réunir tout le monde pour exprimer ce don. Je m'appelle Tope Sedik. On me surnomme Number One Freedom Hall. Le jour, je suis consultant en nouvelles technologies de l'information, poète la nuit. Vous savez, il n'y avait rien à faire. Beaucoup d'entre nous avaient du talent et on se disait, où est-ce qu'on peut aller pour se produire sans que les gens se mettent à rire? Et on a pensé qu'on pouvait créer l'endroit nous-mêmes. On a commencé avec la poésie, puis des musiciens nous ont rejoints. Aujourd'hui, on bouge entre différents endroits. Et avant qu'on s'en rende compte, une foule nous a rejoints.
Wow, thank you very much, Bimbo. Anthony. We've got more poets
we have.
Let's see, Stanley. Oh, Stanley, are you ready? Stanley, ready?
Stanley, are you ready? Not yet. Your wife isn't here yet.
Okay, maybe we should do someone else.
My name is Jumoke Alaode James.
Je m'appelle Jumoke Alaode James. Je suis organisatrice d'événements. Quand on a commencé, il n'y avait que 6 personnes. Je n'imaginais jamais qu'un jour on serait 200. Vous seriez surpris de voir ce que, par exemple, un docteur peut faire. Les gens eux-mêmes sont surpris. Waouh ! Les gens applaudissent. C'est chouette. J'ai fait ça dans ma salle de bain pendant des années. Il n'y a que ma sœur qui savait que je voulais chanter. C'est étonnant, mais surtout très encourageant pour moi. Hier, j'avais une discussion à propos de Freedom Hall et la personne me dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous encouragez la classe moyenne à continuer dans sa médiocrité? J'ai dit non. On ne prétend pas être des professionnels, mais à ce stade, certains quittent déjà leur travail de tous les jours pour poursuivre une carrière dans la musique ou la comédie.
Je m'appelle Barry. Normalement, je suis médecin, mais quand je suis ici, je joue la comédie. Je suis aussi ventriloque. Il y a une époque où je travaillais dans un hôpital pour enfants, et j'ai remarqué qu'il n'y avait rien de tel qu'un spectacle de marionnettes. Donc j'ai commencé à en utiliser. J'ai vu qu'il y avait du répondant et je me suis dit, ah mais tiens, peut-être que ça pourrait marcher sur scène. Et j'ai toujours eu ce côté artistique, mais je l'ai mis de côté parce qu'il fallait que je privilégie mes études avant tout.
Presque chaque nuit, et c'est le sentiment de liberté qu'on a ici, vous ne savez pas ce qui va se produire. Les gens viennent regarder et quand ils voient le genre d'endroit que c'est, ils se lèvent et disent « je peux faire ça » et ça chamboule tout le monde. L'autre soir, un gars hésite, je lui demande ce qu'il sait faire, il sort une petite percussion de son sac et quand il a commencé à jouer, tout le monde s'est mis à pleurer. C'est extraordinaire, chacun a un talent caché et notre rôle, c'est de le révéler au grand jour. Wanna talk about my life, all I have been through,
everything I could, everything I'll say. Et si vous avez un talent inassouvi, vous savez où aller maintenant, direction Lagos et le Freedom Hall, pour vous exprimer. En attendant, on marque une pause avec le rappel des titres et je vous retrouve dans 3 minutes en compagnie du maître de la transformation, Jean-Paul Goud.